Il était une fois une étudiante de Besançon, première de sa famille à accéder à l'université et qui ignorait tout du monde dans lequel elle entrait et de ses filières d'excellence. Cette étudiante, qui sommeille encore en moi, éprouve une forme de stupéfaction à se retrouver en cet après-midi du 9 février 2013 dans une grande université parisienne, dans une salle qui porte le nom d'un spécialiste de Victor Hugo, Pierre Albouy, Victor Hugo auquel on compare si justement Aragon. C'est en souvenir d'elle, mais au nom de la chercheuse que je suis devenue, que je remercie mon jury d'avoir consacré du temps à la lecture de mes travaux et d'avoir accepté de les examiner aujourd'hui. J'exprime une gratitude toute particulière à Karine Trévisan, ma marraine bienveillante, qui a permis que ce projet aboutisse. Il y a plus de 25 années, un de mes professeurs m'a dit le plus sérieusement du monde « Maintenant, Corinne, il faut que tu quittes ton berger et que tu fasses de la recherche. » À l'époque, le berger gardait des génisses dans la vallée de la Tarentaise. Il est devenu mécanicien en usine, puis chômeur, puis de nouveau mécanicien dans une autre usine. Par ailleurs, il est mon mari, père de mes deux enfants, tous présents dans cette salle. Je les remercie, ainsi que ma famille et mes amis, de m'accompagner aujourd'hui. Je n'ai donc suivi que la deuxième partie du conseil des professeurs. Et pour avoir consacré toutes ces années à la recherche et à l'enseignement à l'université à Strasbourg, je soutiens aujourd'hui mon dossier d'habilitation intitulé « Lecture d'Aragon, écritures au travail, des romans de Louis Aragon au témoignage de travailleurs contemporains ». Le professeur n'était autre que Michel Appelmuller qui vient de disparaître. Il a joué un rôle décisif dans mon engagement de chercheuse et dans le choix d'Aragon comme objet d'étude. Ce rôle d'initiateur, de guide, Michel Appelmuller l'a eu pour de nombreux Aragoniens de ma génération, et je salue pour commencer la mémoire de ce pionnier et de ce fondateur. Travailler sur Aragon allait presque de soi pour de jeunes chercheurs des années 90. Nous étions les épigones de ces militants de la recherche aragonienne que sont Suzanne Ravis, Lionel Follet ou Jean Levaillant. Plusieurs d'entre eux avaient déjà posé les bases de la recherche sur Aragon et contribué de manière décisive à faire de lui un monument national. Si Michel Appelmuller et Jean Pétard, mon directeur de thèse et linguiste décédé également, m'ont ouvert les portes de la recherche, c'est donc Aragon qui m'a permis d'entrer à l'université. En choisissant de travailler sur les communistes, je n'avais pourtant pas opté pour le roman le plus indiscutablement réussi d'Aragon. Aujourd'hui, à l'heure où l'on commémore le 30e anniversaire de la disparition de l'écrivain, la presse unanime célèbre ses derniers romans, éblouissants, sophistiqués, savants, qui viennent de paraître en Pléiade. Nulle mention aux communistes et à ses milliers de pages, publiées entre 1949 et 1951, frappées au sceau des partisans politiques de l'écrivain en cette période de guerre froide. Ce qui m'attirait déjà en Aragon, ce n'était pas stricto sensu l'Aragonie elle-même, territoire vaste pourtant au point qu'on puisse y consacrer une vie de chercheur, mais des problématiques déjà entachées d'impureté extralittéraire. La représentation de l'histoire, l'inscription du roman dans un cadre de réception éditoriale, sociologique et politique. À l'inverse des chercheurs plus âgés venus naturellement à son œuvre par le parti, c'est par Aragon que j'ai découvert le communisme français et le stalinisme, davantage encore l'histoire du XXe siècle. Car celui qui disait porter le soleil dans son obscurité n'a pas traversé le siècle comme un voyageur sur son impérial. Il en a épousé la violence et les soubresauts, il a combattu dans deux guerres mondiales, il a utilisé la puissance de sa voix poétique comme résistance à la barbarie nazie, il a cru, désespérément cru, comme il le dit lui-même, qu'il allait pouvoir changer le monde. L'année 1956, comme un poignard sur mes paupières, dit Aragon, figurant comme un moment de basculement, de divorce intérieur, dont toute l'œuvre dernière interroge le sens. Il a découvert aussi les autres, ceux qui n'appartenaient pas à sa classe sociale, sur le front, ses compagnons d'armes, puis les mineurs en grève dans la Sarre occupée. Il s'est engagé dans le parti de la classe ouvrière, en faisant violence à l'intellectuel bourgeois qu'il était, en se confrontant dans la douleur à l'ouvriérisme de son parti. L'étude de la réflexion des communistes dans la presse du parti ou chez des lecteurs militants avait occupé mon doctorat. J'ai ensuite déroulé le fil de la lecture. Aragon fut en effet aussi un lecteur et un critique littéraire. Dans les Lettres françaises, le journal qu'il a dirigé de 1953 à 1972, il s'était érigé en prescripteur d'opinion. En disant aux autres ce qu'il fallait lire, il a joué un rôle culturel de premier plan, un rôle de passeur vers d'autres textes que les siens. Mais il en a profité aussi pour exposer ses propres conceptions esthétiques et déjà, bien sûr, pour écrire indirectement et inlassablement son autobiographie. Car il faut en convenir, à partir des années 60, Aragon se laisse aller à sa passion pour un sujet inépuisable, lui-même. Désormais, Aragon est surtout vu dans son apostasie, pour reprendre le terme de Jean-Pierre Martin, c'est-à-dire dans sa capacité à rompre avec lui-même, sur le plan esthétique, et peut-être, on le soupçonne en tout cas de l'avoir fait en son fort intérieur, sur le plan politique. L'image dominante aujourd'hui de l'écrivain de la rupture, de l'homosexuel flamboyant, participe à la construction d'Aragon comme écrivain classique, institutionnalisé, lu, étudié à l'université, et dont l'œuvre est si vaste qu'elle peut accueillir toutes les projections et les restrictions de ses lecteurs. Chacun a son Aragon. Les communistes lisent La Rose et le Réséda et les poèmes de résistance. Les philosophes de la déconstruction ne jurent que par Blanche ou l'oubli ou Théâtre roman. Mais l'œuvre d'Aragon sera toujours se débarrasser de ce nuage de discours critique, comme dit Italo Calvino, qui dit beaucoup plus de choses sur ceux qui l'ont produit que sur les romans et les poèmes de l'écrivain. À ma manière, j'ai contribué à ce nuage de discours critique. Mais en essayant d'éviter, je l'espère, l'obscurité des brumes et des nuées inutiles. Car la recherche doit viser la clarté, tout autant que l'enseignement auquel elle est liée, elle me semble qu'elle doit être au service du texte. Mes recherches ont longtemps porté sur ce qu'on nomme aujourd'hui les savoirs de l'œuvre, puisque l'appellation intertexte qui a accompagné mes jeunes années est tombée en désuétude tout aussi brutalement que celle de source. Les savoirs politiques, culturels ou historiques sont véhiculés par la langue de l'écrivain, et mon approche est encore marquée par la linguistique et l'analyse de discours. Les savoirs sont d'abord discursifs, et le roman travaille une patte langagière. La langue du roman aragonien s'alimente en effet à ce qui n'est pas elle, et souvent à ce qui n'est pas même littéraire. La presse en particulier, Aragon a longtemps été journaliste, les chansons qui passent à la radio, « Ah, parlez-moi d'amour, onde, petites ondes », ou « Le fait divers », par exemple. L'œuvre d'Aragon puise aussi dans la littérature mondiale, les mythes, les grandes figures définies par les auteurs du monde entier. Par son ampleur vertigineuse, elle m'a offert une entrée dans le monde de la littérature, des troubadours du XIIe siècle à Lampedusa ou Yuri Tinianov. Comme un ancien talisman, elle a été pour moi l'équivalent de l'univers. Je reprends là aussi une des définitions de Calvino de l'œuvre classique. Enfin, je me suis intéressée à l'activité culturelle et intellectuelle d'Aragon, à sa place dans le champ politique et littéraire. Ses relations avec l'intellectuel et éditeur suisse Albert Béguin pendant la Deuxième Guerre ou avec des intellectuels africains en 1949, sa participation à l'Académie Goncourt ou son rapport à la jeunesse en 1968. Ses travaux, où s'exprime mon goût pour le travail d'archives et la presse, sont ceux qui m'ont donné le plus de plaisir, car aux côtés de l'apprenti linguiste se cache en moi depuis longtemps une historienne contrariée. Je n'ai pas d'autre horizon que ma fidélité, dit un vers célèbre d'Aragon. L'histoire de ma recherche est celle d'une longue fidélité à cet auteur, mais plus encore, elle est celle d'une amitié pour les chercheurs de l'équipe de recherche interdisciplinaire sur Elsa Triolet et Aragon, l'ERITA, où j'ai trouvé un cadre qui a donné sens à mes travaux depuis les années 90. Et je voudrais faire une place toute particulière à Patricia Principali, grâce à qui ma recherche a depuis longtemps cessé d'être un plaisir solitaire pour devenir une aventure partagée. Avec cette dernière, j'ai entrepris de questionner la relation d'Aragon avec le peuple. Au sortir de la période surréaliste, l'écrivain adopte l'esthétique démocratique du roman réaliste. Il entreprend d'écrire, dans une certaine mesure, des romans pour tous. Ce sont d'ailleurs ceux qui sont le plus lus aujourd'hui. Fabriqués selon des procédés parfois dignes des romans feuilletons populaires. Ces romans sont informés par une perspective idéologique affirmée. Ils visent une pensée d'histoire, comme l'écrit Marie-France Boirot. Ils mettent aussi en scène des personnages d'extraction populaire, chauffeurs de taxi, mineurs, domestiques, certes peu nombreux, mais dont la présence revêt des enjeux à la fois politiques et esthétiques. Aragon se doit de montrer le peuple dans son devenir révolutionnaire, donc sous la forme de héros positifs. Mais il s'inscrit dans le même temps dans une esthétique proche du naturalisme qui entre en contradiction avec son projet initial. Ce peuple est victime tout autant que magnifié. Joseph Gigois, le personnage des communistes, en est un exemple. Ce jeune ouvrier des télécommunications a été tragiquement mutilé au cours des combats du printemps 1940. Non seulement il a perdu ses deux bras, mais il est devenu aveugle. Mais en communiste, il ne perd ni l'espoir, ni la joie de vivre, heureux à l'idée de se rendre utile à son parti, puisqu'il se dit qu'au moment des manifestations, il pourra être devant les cortèges et que les flics n'oseront pas lui tirer dessus. Ce personnage est très clairement transfiguré par l'hagiographie militante, ce qui d'une certaine manière contrevient aux lois de construction du grand personnage de roman. Mais il faut avoir conscience aussi que des lecteurs réels pleuraient en lisant son histoire. Les chercheuses les plus fidèles cultivent parfois des amours secrètes. Tout en continuant de travailler sur Aragon l'inépuisable, j'étais partie en quête de nouveaux objets, d'autres auteurs. Claude Simon, Blaise Cendrars, Bernard-Marie Coltès, René-Louis Desforêts. Et surtout de textes dans lesquels je voulais trouver une forme de connaissance du monde réel. Car bien que nourris au lait du structuralisme, comme tous ceux qui ont fait leurs études dans les années 80, bien que naturellement conduite par la critique de l'époque à l'admiration des dispositifs spéculaires et des mises en abîme qui séduisent toujours nos étudiants venus de Cagnes, je n'ai jamais pu me défaire d'une conviction. Le roman doit nous parler du monde, en particulier du monde social et politique, de l'histoire, de l'existence vraisemblable d'individus singuliers. La littérature n'a peut-être pour moi d'intérêt qu'à ce titre. Dans une formule fameuse, Aragon dit que le roman est une machine inventée par l'homme pour l'appréhension du réel dans sa complexité. Il dit aussi qu'il est la clé des chambres interdites de notre maison. Le roman nous fait voir ce qui sans lui n'apparaîtrait pas, le réel social, l'intériorité secrète. Il défamiliarise l'expérience humaine, comme dit Shklovsky, et la donne à comprendre. Un colloque que j'ai organisé en 2005 à Strasbourg, aux côtés de mon ami Éléonore Reverdy, sur les voies du peuple, 19e-20e siècle, constitue un moment clé dans le renouvellement thématique de ma recherche. Je viens de découvrir Déhou, de François Bon, paru une année auparavant. L'écrivain est allé à la rencontre d'ouvrières lorraines, licenciées par l'entreprise d'électroménager Déhou, qui s'était installée dans la vallée de la Fèche, à grand renfort de subventions nationales. Comme lui, comme Jean-Paul Gou, auteur de Mémoire de l'enclave qui vient d'être réédité en 2003, je partage le sentiment que nous touchons la fin d'un âge, l'âge industriel. Quelque chose est en train de changer ici et maintenant, et le travail est le lieu où se manifestent ces transformations. Malgré sa grandeur et son génie, Aragon ne me donne aucune clé. La maison que je voudrais ouvrir n'est plus la sienne. Il est temps pour moi d'officialiser cette liaison clandestine avec la littérature du travail. Certes, elle n'a pas la solidité de mon vieux mariage aragonien, mais elle n'est pas une toccada. Une fraction de la littérature contemporaine, et même de l'extrême contemporain, monopolise désormais en parallèle mon attention. J'ai pris le risque de constituer un objet de recherche des textes dont les auteurs ne sont pas même morts. Lydie Salvert, Thierry Bastingel, Martine Sonnet, Annie Ernaux, François Salvin, François Emmanuel, tous ont voulu dire le travail et inscrivent leur fiction dans le monde de l'entreprise. Leurs romans donne à comprendre le nouvel esprit du capitalisme, comme disent Bolsanti et Schiapello. Car il pense les transformations du monde contemporain, il déjoue les représentations toutes faites, les poncifs, les phrases entendues à la radio qui nous submergent. J'ai accordé une attention spécifique au récit de filiation ouvrière, formule que je reprends de Dominique Viard. Ils sont écrits par des fils et des filles qui se sentent des héritiers problématiques. Ils ont hérité d'un manque plus que d'un bien. Karine reconnaîtra ses propres termes et mes étudiants qui ne sont heureusement pas dans la salle, un sujet de dissertation. Ces fils d'eux ont pris aujourd'hui la plume. Une fille de forgeron des usines Renault de Boulogne-Billancourt devenue historienne, la fille d'un mineur de Lorraine devenu ministre de la Culture, le fils d'un garagiste Citroën devenu écrivain. Ils ont tous constaté l'effondrement du monde ancien, dans lequel s'enracinait une culture, une solidarité et un savoir-faire. L'histoire de leurs parents aussi. La grande usine sidérurgique de Micheville en Lorraine n'existe plus que sur des cartes postales anciennes. L'usine Renault de l'île Seguin a été rasée. Le temps est venu de la commémoration, qui suscite des textes littéraires originaux, crépusculaires. Cette littérature du tombeau ouvrier fait profondément sens aujourd'hui. Enfant, il m'est arrivé d'accompagner mon père le samedi matin à l'usine Parnin de Villers-le-Lac, aujourd'hui reconvertie en maison des associations. Il exerçait le métier d'électricien, et une fois les machines éteintes, il pouvait les réparer. C'était des matinées très ennuyeuses. Et comme à l'époque, je n'étais pas encore en train de rédiger mon discours de soutenance, je me trouvais vite désœuvrée. J'avais donc trouvé une activité, ramasser sur le plancher centenaire les minuscules pièces d'horlogerie qui étincelaient comme des pépites d'or, petits trous dentelés, barillets, tiges de remontoir, ressorts spirales, pignons, que je mettais ensuite dans une petite boîte. Les textes qui ont récemment attiré mon attention me font l'effet de ce plancher sombre et gras sur lequel brillaient ces pépites. La littérature n'en est pas la visée première, puisque la plupart sont des témoignages, et que le témoignage comme genre littéraire, par nature, vise d'abord à attester de la réalité d'une expérience, à la dépeindre de manière précise en évitant l'ornementation. Les témoins de la Première Guerre mondiale, qui ont inventé le genre, selon Charlotte Lacoste, n'ont en effet jamais cessé d'exprimer leur méfiance vis-à-vis de la chose littéraire. Parmi les pépites que j'évoquais, un texte de Christian Corrouge, longtemps ouvrier spécialisé chez Peugeot, qui date de 1975, et où il se plaint de ne plus pouvoir se servir de ses mains, que je vous propose d'entendre. « J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir, ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui décrasser ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces moments-là. Ils ont bouffé mes mains. J'ai envie de faire des tas de trucs, puis je me vois avec un marteau, je sais à peine m'en servir. C'est tout ça, tu vois. T'as du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer, ça aussi c'est la chaîne. Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les lire, que les mots, ils t'arrivent tous ensemble dans la bouche. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je veux plus y aller. J'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qu'il me mutile encore davantage. La peur que je ne puisse plus parler un jour, que je devienne muet. J'ai tellement mal aux mains, tellement de grosses mains. Mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec, mais j'ai du mal à plier les doigts. Ma peau, elle s'en va. Je ne veux pas me l'arracher. C'est Peugeot qui l'arrachera. Et je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache. Christian Corrouge n'est pas le premier dont les mains ont été détruites par l'industrie. Malheureusement, il n'est pas non plus le dernier. Dans les abattoirs en France et non en Chine, la cadence défie l'imagination. Les ouvriers interrogés par la documentariste Manuela Fréville se sont plaints en premier lieu de douleurs insupportables aux épaules, aux coudes, aux mains. Son documentaire « Entrée du personnel » va sortir en mai 2013. Pourtant, Corrouge exprime ce drame d'une manière unique dans la violence du témoignage oral proféré. Ce texte, en effet, a d'abord été enregistré sur un magnétophone, puis a servi de bande-son dans un film de Bruno Muel. Enfin, il a été recopié par un écrivain, Jean-Paul Doux, en 1986, dans un livre consacré à la mémoire ouvrière du pays de Montbéliard. À quel moment cette description des mains, qui n'a jamais été écrite, devient-elle littéraire? Je ne suis pas encore parvenue à répondre à cette question qui est peut-être insoluble. Celle-ci touche le cœur même de toute recherche en littérature et rejoint d'autres interrogations contemporaines sur la voix, pas nécessairement ouvrière d'ailleurs, et sa profération. Le témoignage de l'ouvrier spécialisé qui dit « l'atteinte de l'homme en l'homme de la main et de la pensée » nous émeut, certes par ce qu'il dit d'une souffrance, mais aussi par la manière dont il le dit, en somme par la diction au sens de jeunesse. C'est ainsi que, contrairement à mes collègues historiens et sociologues qui utilisent ces textes comme source documentaire, j'ai entrepris de les examiner sous un angle littéraire, de les considérer comme des monuments et pas seulement comme des documents. Cela signifie les envisager pour eux-mêmes, dans leur fabrication, leur intention de communiquer, leur projet ou leur composition. Évidemment, on est ici à mille lieues de la splendeur de la langue aragonienne et de la hauteur de vue du très grand écrivain. Pourtant, parler de son travail suppose le désir d'être entendu, ce qui veut dire trouver un éditeur, s'insérer dans un champ littéraire ou intellectuel, et cet exercice suppose surtout, pour le travailleur qui prend la plume et dont l'intention est de témoigner son expérience, de mettre l'écriture au travail, et par conséquent de se confronter à quelque chose qui a à voir avec la littérature. L'inédit que je présente dans mon dossier est moins un essai achevé, définitif, que la pièce d'un édifice en cours d'élaboration. Autour du travail, différents genres du discours m'ont intéressé. Les romans d'entreprise, les récits de filiation et dans mon inédit, donc, les témoignages ou récits d'expériences personnelles. Dans chacun des domaines, de multiples pistes restent à explorer. L'une d'elles donnera lieu à un colloque en juin à Strasbourg. Avec l'historienne Catherine Guillermo de Besançon, nous envisageons l'examen de la langue du travail, la langue du management. Présente dans tous les secteurs de l'activité humaine, la presse, l'industrie, l'éducation et même, nous pouvons le constater, l'université, cette nouvelle langue est l'instrument de la justification et du consentement. On sait combien les mots de compétitivité et de productivité, par exemple, servent aujourd'hui de justification à l'accélération des cadences. Cette langue s'alimente au vocable anglo-saxon, aux sigles, aux euphémismes. Elle a renommé les métiers et prétend redéfinir le travail. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ouvriers, mais des opérateurs, plus de chaînes, mais des lignes, par exemple. Le roman contemporain se fait l'historien et le critique de cette évolution. Il montre que cette nouvelle langue, qui prétend être un discours de l'évidence, a une histoire qui naît au milieu des années 80. Le roman dénonce le dévoiement de notre langue par la raison économique et le mensonge. Il met en cause le travestissement de la réalité. Voilà une question qui m'intéresse, et comme j'ai pu le constater, qui passionne tout autant mes étudiants. Quant à Aragon, il n'est pas question pour moi de divorcer d'avec le plus grand écrivain français du XXe siècle. Des documents inexploités gisent encore dans plusieurs fonds d'archives. Le dossier de presse de théâtre roman, qui se trouve dans les archives Gallimard, livre un impressionnant dossier de coupure que je présenterai lors du colloque organisé par Rosine Valère et Marie-Christine Mourier. Quant au fond, Aragon lui-même, en dépôt désormais au département des manuscrits de la BNF, il recèle plusieurs trésors, dont l'un m'intéresse au plus haut point, qui est la correspondance, inexploitée en tant que telle. Parmi les 8800 missives conservées dans ce fond, nombreux sont des courriers envoyés par des inconnus, des admirateurs, des lecteurs, de simples militants politiques. Des hommes et des femmes du peuple, entre guillemets, se sont-ils adressés à Aragon? Pourquoi et sur quel mode s'adresse-t-on à lui? Quelles images du grand écrivain ces lettres permettent-elles de définir? Quel type de texte lui envoie-t-on? Autant de questions que quelques journées passées à la BN en novembre m'ont permis d'entrevoir, mais pas encore de traiter. Aragon terminait son recueil « Les poètes » par ce vers célèbre « Homme de demain, à vous de dire ce que je vois ». C'était pour lui une façon de s'adresser à la jeunesse Et il a repris ce vers en 1968 en parlant aux étudiants dans son journal Les Lettres Françaises. Donc il parlait aux étudiants qui manifestaient. Il avait alors 71 ans. L'étudiante byzantine dont j'ai parlé au début de mon discours s'est aperçue récemment qu'elle avait les cheveux blancs, qu'il était peut-être temps pour elle, bien qu'elle n'ait pas tout à fait 71 ans, de songer aux hommes et aux femmes de demain. C'est donc bien parce que je me sens prête désormais à transmettre et à encadrer des thèses que je présente ce dossier d'habilitation. Et c'est du côté des étudiants que je me tourne désormais, du côté de ceux qu'Aragon aurait certainement nommé, comme il le fait dans la Semaine Sainte, les graines de l'avenir.
Merci. Merci Corinne pour cet exposé très personnel qui nous permet de bien revivre ce travail de chercheuse et d'enseignante qui nous fait lire aujourd'hui à la fois des publications et donc la conférence. Je vais donc la présidente à encadrer. On voit comment il faut parrainer.